Chers auditeurs de Radio Saint-Ferréol, bonjour et bienvenue dans l'émission Thérapie Vision de Psy. Cette émission se donne pour mission d'explorer à partir des témoignages de professionnels différentes façons d'exercer le métier de thérapeute. Psychopraticien, psychothérapeute, psychologue clinicien, hypnothérapeute, les titres sont nombreux, divers et démontrent la multitude de portes d'entrée possibles pour tenter de soigner la psyché humaine. 6 émissions, 6 invités, 6 invités, 6 professionnels, 6 professionnels, 6 pratiques, 6 pratiques, 6 visions de la psy. Une émission par mois pour comprendre ce qui caractérise à la fois les pratiques mais aussi la singularité de chaque thérapeute, en découvrant comment il procède, comment il se positionne, ce qui retient son attention, ce qu'il pense du lien qui se tisse avec son patient, pourquoi il fait ce qu'il fait. Comment on démarre une thérapie, comment on la termine, quel est le cadre propre à chaque thérapeute, quelle place pour le corps, quelle place pour les émotions. Autant de questions que nous verrons émerger au cours de l'entretien. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Laetitia de Scoutet. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Alors Laetitia de Scoutet a un site internet et elle se présente comme psychologue clinicienne, praticienne EMDR depuis plus de 23 ans, facilitatrice de cercle, formatrice, superviseuse.
Alors oui, je suis avant tout psychologue clinicienne. Donc, et puis j'ai toute une expérience au fait sur le terrain avec Médecins Sans Frontières qui m'a vraiment amenée sur le champ du trauma et c'est là où je me suis spécialisée en EMDR.
Oui, voilà, donc à ta sortie d'études, tu vas quasiment immédiatement sur le terrain. Ça dure 5-6 ans, c'est ça ?
Ouais.
Avec Médecins Sans Frontières, où tu vas pratiquer, où tu vas vraiment constater le trauma et essayer de travailler dessus.
Oui. Alors, au fait, j'étais une jeune psychologue. J'avais travaillé un an en Belgique et puis je suis partie pour Médecins Sans Frontières au Rwanda. On était 8 ans après le génocide. Les personnes avec qui je travaillais étaient des rescapées du génocide et surtout des femmes dont on avait tué les enfants, les maris et qui mouraient du sida lié au viol. Donc je suis rentrée vraiment dans un des champs les plus traumatiques, je pense, sur la Terre à ce moment-là. Ouais. Et moi, j'avais eu très, très, très peu d'informations autour du trauma dans mes études, au fait. C'est incroyable que j'avais peut-être une heure. Et donc je suis arrivée dans un champ où je n'avais pas les outils. Donc j'ai lu beaucoup à ce moment-là et c'était chouette. On avait des livres qu'on appelle la thérapie brève, donc, ou la thérapie centrée solution, qui travaille beaucoup autour de comment est-ce que tu rebondis. Donc quand tu as un choc, c'est pas pourquoi est-ce que tu as eu ce choc de ton histoire, ça c'est pas ce qui nous intéresse, mais c'est comment est-ce que tu vas faire pour rebondir par rapport à ce que tu as vécu et comment traverser ce que tu as vécu. Donc je me suis beaucoup auto-formée. Et là, MSF m'a payé cette formation aussi en EMDR.
Le EMDR, on connaissait ça en France depuis combien de temps, en France ou en Belgique ?
Ça faisait 2-3 ans que c'était arrivé en France et en Belgique. C'était okay. Au tout début de l'EMDR en France et en Belgique.
Avec le EMDR, c'est la première fois qu'on s'intéresse au trauma réellement ?
On s'était déjà intéressé, mais avec le EMDR, je dirais que c'est la première fois qu'il y a une technique opérationnelle et rapide par rapport au trauma. Et surtout au trauma lié aux guerres. Parce que l'EMDR est surtout a pris corps dans la clinique des vétérans de guerre.
Oui, okay.
Et donc, parce que c'est ce qu'on appelait les personnes les plus traumatisées, au fait, dans la société. Et puis après, ça a évolué. Maintenant, on travaille avec tout le monde, mais c'est parti de là. Et donc, c'était... Et pour moi, ça reste encore un champ de pratique où ça évolue, quoi. Au niveau du trauma, on apprend chaque fois des choses et ils sont très évolutifs. Et donc, c'est assez... pour moi, c'est le plus opérationnel. Ça fait presque 25 ans que je travaille autour du trauma. Oui. Et vraiment, moi, je suis toujours fan de l'EMDR parce que pour moi, c'est ce qui est le plus efficace et le plus rapide. Donc, voilà.
Ouais, tu as commencé avec ça et tu continues aujourd'hui à cheminer avec l'EMDR. Et donc, j'imagine que tu l'as fait un peu évoluer dans ta pratique. Tu continues à en apprendre tous les jours ?
Oui, je continue à en apprendre tous les jours et je l'ai fait beaucoup évoluer dans ma pratique, c'est sûr.
Okay.
C'est sûr, parce que un protocole est un protocole. Maintenant, les personnes sont tellement plus riches qu'un protocole.
Est-ce que l'EMDR vient répondre à ce qu'on appelle le stress post-traumatique ?
Oui, ça vient directement répondre à cette question. Donc EMDR, ça veut dire Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Ça veut dire comment est-ce qu'on retraite de l'information qui a été encapsulée dans la mémoire traumatique, comment est-ce qu'on va la retraiter ? Et en fait, on la retraite quand on vit des chocs, on les traite dans nos nuits. Mais parfois, quand les chocs sont trop forts, ou soit qu'on était trop seul, ou que c'était trop violent, eh ben, on va encapsuler cette information le temps qu'on soit en sécurité pour aller la trier, au fait, pour mettre son regard dessus. Oui. Et donc, en EMDR, on va faire ce que notre corps ne sait plus faire tout seul.
Tu parlais des zones de guerre. On va juste écouter un petit extrait, un extrait de toi d'ailleurs, qui parle. C'est un extrait qui date d'il y a 7 ans, où tu parles de comment réhumaniser l'individu qui est au cœur de ces problématiques.
Ce qui m'a le plus aidée, ou ce que j'ai vraiment appris, c'est que des personnes qui ont vécu les guerres ont été mises hors humanité. Et que ce dont elles ont le plus besoin, c'est d'être mises dans l'humanité. Et ça ne s'apprend pas par des techniques et des choses comme ça. Ça s'apprend parce qu'on est là avec notre cœur vivant. Et qu'on est là en tant qu'humaine qui accueillons un autre humain. Donc, ce n'est pas un psy qui accueille un pauvre réfugié, au fait. Non, c'est une humaine qui accueille un autre humain. Et ça doit vraiment rester avant tout notre ligne de conduite, quoi. C'est que ces gens, quand ils sentent que... On résonne au fait qu'on est là, et qu'on les accueille en tant qu'humaines pour rejoindre l'humanité. Parce que comme ils ont été mis sciemment hors humanité par des viols de masse, par de la propagande et tout, on les a vraiment sortis de l'humanité. C'est vraiment par l'humiliation, combien d'humiliations ils ont subi. Et ben quand on est dans un vrai contact humain, c'est vraiment ça qui est reconstruit au fait.
Oui, on parlait à l'instant donc de la technique EMDR. Et là, on parle vraiment du cœur à cœur. Comment tu doses ce que tu fais dans tes séances ?
Je voudrais revenir sur le cœur, parce qu'au fait, c'était vraiment une des initiations au Rwanda. Ça a été ça, c'était que, au fait, on ne guérit pas avec l'esprit, on guérit avec le cœur. C'est le chant du cœur qui permet de traverser les mondes traumatiques. C'est pas le chant de la compréhension. Ça apporte un regard. Mais vraiment, si on veut guérir du trauma, c'est avec l'énergie du cœur et de la réhumanisation. Parce que bien souvent, on a gardé encapsulées les choses douloureuses, les choses humiliantes, parce que justement, il n'y avait pas assez de cœur autour. Donc c'est le prérequis, au fait.
Alors justement, juste avant de venir pour enregistrer, je parlais avec une amie de ce qu'on allait faire ici. Et donc je lui parlais de ton parcours sur les zones de guerre. Et elle me disait, mais comment moi, avec mes petits problèmes d'occidental, cette personne, est-ce qu'elle aurait... Je dois être rien par rapport à tout ce qu'elle a dû voir. Et est-ce que tu arrives à mettre autant de cœur avec voilà, une personne que tu vas rencontrer ici, qui n'a pas vécu tous ces drames, qu'avec... Est-ce que tu comprends ma question ?
Oui. Oui, parce que chacun d'entre nous, on a des blessures, et quoi, qu'elles soient grandes ou petites, on doit en prendre soin, oui, d'une manière ou d'une autre. Après, c'est vrai que moi, j'aime travailler sur des blessures... où il faut beaucoup de cœur pour les traverser. Voilà, parce que je pense que c'est une des spécificités que j'amène. Alors, c'est ce que j'aime, en fait. C'est, oui, d'être là avec la personne et de me sentir vivante, vibrante, à côté de cette personne qui traverse des choses compliquées. Et aussi, ce que j'ai appris au Rwanda, parce que ça, c'était ma première initiation, c'est qu'on peut tout traverser quand on est ensemble. Mmh. Parce que l'histoire du trauma, c'est que le trauma, il isole et il fige. On pourrait dire que c'est vraiment les deux caractéristiques du trauma, c'est que ça isole et ça fige. Et donc, pour traverser les traumas, il faut se sentir en lien et aussi bouger, quoi sortir du figement dans lequel le trauma nous a mis.
Comment tu parviens à savoir qu'un trauma a été dépassé ?
Ben parce que quand la personne, elle reparle de ce qui lui est arrivé, elle arrive à le mettre dans le temps, à dire, ben voilà, ça m'est arrivé, c'était hyper dur, c'était pas ok, c'était pas juste, et c'est terminé.
À l'inverse, si c'est pas le cas, l'émotion est déborde.
Oui, l'émotion est très très forte, la personne se sent comme encore dans le temps, dans le moment où ça s'est passé. Donc ça, ce sont les deux choses Vraiment, si une personne peut parler de ce qui lui est arrivé, même en ayant des émotions, parce que parfois c'est atroce ce qui nous est arrivé, c'est normal, oui, d'avoir plein d'émotions. Oui. Voilà. Et puis je voulais juste revenir sur tout à l'heure ta question, tu disais comment est-ce qu'on fait, parce qu'il y en a qui ont vécu des guerres, mais parfois ici aussi en France, on peut vivre des choses vraiment dures. Et justement, c'est pas du collectif, c'est de l'individuel. On peut vivre des choses tout seul, à l'intérieur de nos familles, des choses où justement on n'a pas de support, et c'est parfois encore plus dur que de vivre un événement traumatique, mais vécu collectivement,
oui,
en
oui,
fait.
Oui, je vois ce que tu veux dire.
Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment important de recevoir du soin, si c'est le cas. Parce que ça, c'est souvent les pires traumas, ce sont ceux qu'on vit seuls, au fait, au sein des familles.
Oui, et donc de réussir à remettre des mots là où on a toujours été seul avec soi-même sur ces sujets.
Exactement, ouais.
Sur ton site internet, on voit aussi que tu fais référence à deux personnages importants. Il y a Fatinia et il y a Simon Gassi-Bérégué. Tu veux nous en parler un petit peu pour nous expliquer en quoi ces personnes t'ont influencé?
Ouais, ben je vais commencer par Simon. Simon Gassi-Bérégué, c'est un psychologue. Aujourd'hui, il a 84 ans. Et c'est lui qui, après le génocide, a vraiment créé des groupes où il mettait génocidaires et rescapés du génocide ensemble, dans ce qu'on appelle de la santé mentale communautaire, des ateliers de santé mentale communautaire, et où il m'a vraiment appris autour du trauma qu'on souffre tous, qu'on soit auteur ou victime. On souffre de blessures de vie. Et par sa présence très particulière, parce que c'était un homme très sage, il arrivait à refaire dialoguer l'indialogue, l'indicible. Il arrivait à refaire dialoguer ça. Et il retissait du lien dans sa communauté. Il disait toujours, une communauté, c'est vraiment comment se soigner. Il n'y a pas besoin toujours de spécialistes. Et c'était une vraie question, parce qu'au Rwanda, il y avait 10 millions de personnes traumatisées. Il y avait un seul psychiatre en 2002. Et il y avait genre 10 psychologues. Donc, c'était impossible. On ne peut pas gérer autant de traumas. Quoi, c'est pas possible. Donc, c'était vraiment comment aider la communauté elle-même à traverser.
Et Fatinia,
donc elle, c'est une guérisseuse que j'ai connue au Brésil quand j'ai travaillé dans les favelas en santé mentale communautaire aussi au nord-est, à Fortaleza, dans le nord du Brésil. Et elle m'a beaucoup appris sur comment est-ce qu'on voyage entre les mondes. Parce qu'elle voyait le visible, elle voyait le monde de l'invisible. Et donc elle m'a appris à ouvrir mes perceptions pour prendre en compte aussi comment certaines personnes voient le soin, qui n'est pas juste des symptômes et des médicaments, mais aussi qu'on est lié aussi à un tissu parfois beaucoup plus subtil que ce qu'on pense,
oui,
en fait. Et donc elle m'a beaucoup aidé à voir ça, à prendre ça en compte.
Et tu dirais que ça se perçoit comment aujourd'hui dans ta pratique, comment tu l'intègres, tout ce que tu as découvert avec elle, avec eux?
Ben, ça s'intègre que, ben, avec Fatinia, donc ça, il y a plus de 25 ans, ben, elle amène aussi les gens en processus de trans. Donc, moi, j'ai utilisé la trans depuis très longtemps. Et puis là, j'ai suivi une sensibilisation en trans cognitive auto-induite de Corinne Sombrin, des ateliers. Et donc, parfois, je peux me mettre en état modifié de conscience pour ouvrir les champs des perceptions et pouvoir aider à un niveau plus large.
Et aujourd'hui, tu fais beaucoup de groupes, de cercles, de groupes de thérapie. Tu utilises la trans dans ces groupes?
Non. Non, pas du tout.
Okay.
Non, la trans, je l'utilise très peu, au fait. Mais de temps en temps, en individuel, jamais en groupe.
Oui, d'accord.
Mais oui, aujourd'hui... Ben, de toute cette expérience et surtout des groupes que je fais depuis plus de 20 ans, je vois que le groupe permet de débloquer des traumas qu'en individuel, on va mettre longtemps à débloquer. Donc le groupe, au fait, parce qu'il devient un contenant sécurisant, il permet vraiment de pouvoir aller débloquer des gros, gros, gros traumas. Alors il ne va pas en finesse, en individuel, on peut avoir beaucoup plus de finesse, mais parfois ça met beaucoup plus de temps en individuel. Donc pour moi maintenant, oui, la voie c'est le groupe, parce qu'en groupe on peut vraiment traverser beaucoup plus de choses et ça va beaucoup plus vite. Le trauma isole et il fige.
Oui.
Et en groupe, au fait, on peut retrouver du lien. Parce qu'une des manières de sortir du trauma, c'est de se sentir relié. C'est une des grandes manières. Et le groupe permet ça si le groupe est sécure. Alors bien souvent, on a vécu des choses dans des groupes insécures. Donc c'est pour ça qu'on a peur de venir en groupe. Mais si on arrive à créer un groupe sécure, si les personnes peuvent être garantes de créer une énergie de groupe sécure, alors ça devient un immense support, au fait.
Comment tu fais pour que justement le groupe soit contenant, qu'il y ait cette sécurité qui s'installe entre des personnes qui ne se connaissent pas au départ?
Ben, tu crées des berges claires, au fait. Tu crées un cadre clair. Donc ça, il y a toute une technique pour créer des cadres clairs dans les groupes. Et surtout, tu vas travailler sur qu'est-ce qui a poussé les gens à venir là. Et c'est souvent le cœur qui a voulu. Souvent, quand on veut chercher de l'aide, c'est d'abord notre cœur qui a envie de quelque chose d'autre pour nous, de quelque chose de plus large, de plus fluide et tout. Donc, on va travailler autour de cette énergie de notre cœur qui veut quelque chose de plus doux, plus juste pour nous, pour ceux qu'on aime, pour le collectif. Donc, ça s'apprend de créer des espaces sécures, mais on le fait avec ma collègue Anne Morin dans les groupes de MDR qu'on tient ensemble. Où moi, parfois, je tiens aussi des espaces seuls où on travaille aussi avec cette énergie-là.
Moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a tout un tas de processus d'évitement qui font qu'on évite d'aller sur le trauma. Tu veux bien parler un peu de comment on arrive à éviter, comment la psyché humaine arrive à éviter d'aller sur ces terrains ?
Ben, de plein de manières différentes. Souvent, quand on a beaucoup d'émotions, on évite avec ce qu'on appelle les pompiers, qui sont plutôt de l'ordre des addictions, de manger, de boire, de faire des jeux vidéo, d'acheter, de quoi, voilà. Donc ça, c'est nos manières souvent de faire en sorte de pas ressentir des choses pas chouettes à l'intérieur. Mais si on apprend les uns et les autres à pouvoir être avec ce qui est sans devoir fuir d'une manière ou d'une autre, eh ben vraiment, ça permet que l'énergie bloquée, au fait, elle se traverse rapidement. Mais souvent, on a peur de tout ça. Et on n'a pas reçu le mode d'emploi, au fait. On n'a pas reçu le mode d'emploi pour que de l'énergie et de l'émotion et des sensations désagréables et puis des pensées. Mais avant tout, avant les pensées, c'est les sensations. Les sensations créent l'émotion, l'émotion crée les pensées, au fait. Mmh. Et donc, si on apprend aux gens à pouvoir être avec des sensations désagréables et à les laisser aller, très souvent le trauma se dissout, au fait.
Donc, l'enjeu, ça va être d'aller ressentir dans le corps pour ensuite laisser émerger l'émotion,
oui,
et la transformer, la transmuter.
Exactement.
Ouais, ok.
Exactement. Et pour ça, il faut se sentir en sécurité pour pouvoir sentir des choses qui sont pas chouettes à sentir.
Et est-ce que le MDR vient finaliser ce processus ? C'est quand ça a émergé que le MDR peut enfin être effectif ?
Ouais. Ben, ça va plus vite quand ça a émergé. Après, dans les techniques EMDR, on a aussi des protocoles pour faire émerger.
Qui permettent d'aller chercher.
Pour faire émerger le matériel. Mais bien souvent, ça. En fait, souvent, on a peur de ce qui va venir et tout. Mais une chose est sûre, c'est que si on est là, c'est qu'on l'a traversé. Et c'est qu'on est vivant. C'est juste que dans notre cerveau, on ne sait pas encore qu'on a traversé. Et donc, c'est remettre du lien entre c'est arrivé et c'est terminé. Ça a été traversé. Parce que si on est là, c'est qu'on l'a traversé.
On a parlé du fait que tu faisais de la thérapie individuelle, de groupe. Tu fais de la formation aussi. Tu veux bien nous parler juste un petit peu de ce que tu fais en formation ?
Ben, je forme surtout autour du psychotrauma.
D'accord.
Pendant de nombreuses années, j'ai formé dans des hôpitaux, dans des associations autour du trauma. Et puis là, maintenant, je forme aussi ici dans la région. Moi, j'ai trois modules, hein, qui est plus sur les bases du psychotrauma. C'est quoi le psychotrauma ? Et ça, il est ouvert à tout le monde parce que je pense que c'est vraiment important de comprendre c'est quoi le psychotrauma et comment, quand quelqu'un a beaucoup d'émotions, on la remet en sécurité. Ensuite, ça, c'est plus autour de traiter les traumas simples en individuel, donc quelques bases autour du traitement en individuel de trauma, mais ça, c'est que ouvert aux thérapeutes qui ont déjà des pratiques.
D'accord.
Et puis traiter le trauma en groupe, mais ça, c'est aussi ouvert aux thérapeutes qui ont déjà des pratiques.
Ok, je te remercie. On va continuer avec une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après.
It's running away.
C'était Selassou et Silo Green avec le titre Please. On va maintenant écouter un extrait de Muriel Salmona. Alors, Muriel Salmona, pour resituer un petit peu, elle est psychiatre spécialisée en psychotraumatologie et en victimologie. Elle est régulièrement sollicitée sur les questions de violences sexuelles, de harcèlement, de prostitution. Elle a récemment fait un podcast sur France Culture qui s'appelle « Trauma et violences sexuelles, de l'agression à la réparation ». Et là, on va l'écouter sur le sujet de la mémoire traumatique. C'est parti.
La mémoire traumatique, en fait, c'est vraiment une mémoire qui n'a pas été intégrée en mémoire autobiographique, qui reste bloquée hors temps, comme une machine à remonter le temps, qui fait que aussitôt qu'un lien va rappeler la situation, elle va exploser et faire revivre à l'identique. C'est-à-dire que, par exemple, si on a vécu une violence extrême dans le noir, quand elle va revenir, on va être dans le noir. Si on a vécu une violence avec des douleurs, les douleurs vont revenir à l'identique, comme si elles se reproduisaient. Ça peut mener les gens aux urgences. Toutes les phrases vont revenir, tous les bruits, et je veux dire, les personnes peuvent même avoir peur d'être folles, tellement c'est violent, tellement c'est énorme, tellement c'est incompréhensible. Et cette mémoire traumatique, dernière chose, elle se traite. On peut traiter la mémoire traumatique, on la transforme en mémoire autobiographique, on refait fonctionner le circuit. Les traumas, c'est un peu comme des fractures, on réduit les fractures en quelque sorte. Et le tissu neurologique se répare, c'est-à-dire que les atteintes neurologiques de départ régressent, les circuits se remettent à fonctionner. Et du coup, la personne, elle a vécu quelque chose de terrible, mais elle ne le revit pas à l'identique. On ne peut pas vivre avec une mémoire traumatique. Si on a une mémoire traumatique, ça veut dire qu'on a un terrain miné qui peut s'allumer aussitôt qu'un lien, une odeur, un bruit, quelque chose qui réveille les violences, quelque chose qui serre le cou et puis d'un seul coup, c'est l'entraînement qui revient et la personne, elle se met à étouffer. À ce moment-là, les personnes vont devoir mettre en place des stratégies d'évitement et ou des stratégies, ce qu'on appelle les conduites dissociantes, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'elles se dissocient pour pouvoir s'anesthésier pour ne pas vivre ces états atroces. Et du coup, c'est comme ça qu'il y a un risque très important de consommer de l'alcool, de la drogue, de se mettre en danger, parce qu'on fait monter la personne, en fait, sans savoir pourquoi. Si elle se met en danger, si elle se fait mal, si elle se brûle, si elle se scarifie, quand elle fait ça, en fait, elle fait monter le stress, elle fait disjoncter le cerveau, et du coup, elle évite de revivre l'événement. Et ça vaut bien mieux d'avoir une douleur que l'on contrôle, plutôt que de revivre un événement atroce où on a failli mourir, où on a été terrorisé, où ça a été l'horreur. Donc du coup, les personnes vont comme ça essayer de survivre comme elles peuvent, non seulement aux violences, mais aux conséquences des violences. Du fait de cette mémoire traumatique qui appartient à l'agresseur, qui colonise la victime, les victimes peuvent avoir l'impression que c'est elles qui pensent qu'elles sont nulles, qu'elles valent rien, que c'est elles qui sont violentes, que c'est elles qui ont une haine vis-à-vis de soi, alors que c'est en fait la haine de l'agresseur qui est en fait en mémoire traumatique en elles, qui est à l'origine de ces réactions.
Récemment, j'ai vécu un événement qui a été très douloureux et j'ai fait deux séances de MDR à une semaine d'intervalle. C'était la mort de mon chat, en l'occurrence, pour parler un petit peu de ma vie. Et c'était assez stupéfiant parce que après ces deux séances, c'était presque choquant à quel point l'événement était... j'étais sans émotion forte, je culpabilisais presque de ne pas assez ressentir de douleur, alors que je ne pouvais plus monter dans mon garage, c'était quelque chose assez vraiment difficile. Quand ce sont des traumas lointains, j'ai l'impression que c'est plus difficile d'identifier la résolution, alors que là, c'était vraiment flagrant. Est-ce que tu veux bien développer un peu là-dessus, Alexia ?
Oui. On peut penser que c'est plus difficile, mais à vrai dire, les traumas lointains, parfois, c'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. On ne se souvient pas toujours, mais par contre, notre corps s'en souvient. Notre corps, il a l'information. Donc, quand il arrive dans un endroit ou quand il se passe quelque chose qui lui rappelle cet événement-là, il ne se sent pas bien. Et il a des pensées, ou on peut avoir des pensées vraiment dures vis-à-vis de soi-même. Et c'est un peu des choses qu'on ne comprend pas. Si on a plusieurs choses qu'on ne comprend pas à l'intérieur de nous, c'est souvent qu'il y a de la mémoire traumatiques, oui, ou comme des capsules, au fait. Il faut bien comprendre que la mémoire traumatique, c'est incroyable. C'est la manière dont notre cerveau gère la violence. Parce que souvent, quand on était face à de la violence, quelle que soit sa forme, ou de l'incompréhension de ce qui se passait, ou qu'on n'a pas reçu assez de compréhension sur ce qui se passait, qu'on s'est ressenti toute seule, ou qu'il y a eu trop. Le trauma, on peut le résumer, c'est qu'à un moment, il y a eu trop. Il y a eu trop d'informations, on s'est senti trop seul, c'était trop dur, il y a eu trop. Le cerveau dit pas de souci. J'encapsule ça et je vais le garder le temps que je vais pouvoir le traiter, comme je disais avant. Et c'est ça la mémoire traumatique, c'est qu'il encapsule ça dans ce qu'on appelle les amygdales cérébrales. Seulement, les amygdales cérébrales, elles ne sont pas en lien avec la mémoire épisodique, la mémoire qui connaît notre âge, qui sait qu'on a traversé, qu'on a survécu, oui, ce qu'on a, qui est logé dans l'hippocampe.
Oui.
Et donc... elle a raison, Muriel Salmona. On peut très bien, quoi, quand on va voir, quand on peut dire à la personne, sentez, mettez-vous dans ce moment-là, et en même temps, vous sentez que vous êtes dans le présent maintenant, en fait. On ne peut pas gérer un trauma si on ne sent pas en même temps qu'on est dans le présent en sécurité. Parce que quand on sent qu'on est et dans le passé et dans le présent, notre corps, notre cerveau, il fait directement le traitement. Il dit, ah oui, c'est vrai, c'est arrivé, c'était dur, tout ça, mais aujourd'hui, je suis maintenant dans le présent. Et il traite et il a accès à tout ce qu'on appelle des réseaux neuronaux adaptatifs. Il a aussi accès à de l'information qui est juste. Peut-être toi, dans la mort de ton chat, tu as eu accès à... mais tout ce que j'ai vécu était déjà super avec lui, ou j'ai fait du mieux que j'ai pu quand il n'allait pas bien, ou tu vois, tu as eu accès du coup à des réseaux neurocognitifs auxquels tu n'avais plus accès quand tu étais juste dans ta peine.
Oui.
Et en fait, c'est comme ça.
Est-ce que pour aller travailler le trauma, il faut avoir le souvenir qui va avec ?
Pas du tout. Et une de mes enseignantes, elle dit qu'il n'y a rien de mieux qui se garde qu'un trauma. Moi, j'ai déjà une fois aidé une personne qui avait 84 ans. Elle avait eu une agression à 4 ans. Et 80 ans après, elle s'en souvenait exactement comment ça s'est passé. Donc non, il n'y a pas besoin de quoi. Parfois, on s'en souvient, parfois, on ne s'en souvient pas. Et c'est pour ça que moi, j'apprécie tellement le MDR, parce que ce n'est pas cognitif. On peut dire aux personnes, vous partez à partir d'une émotion, d'une sensation, même d'un malaise que vous ne savez pas très bien de quoi il s'agit, mais vous partez à partir de cette chose-là qui vous pourrit des relations ou des moments. Et il suffit d'être avec ça et petit à petit, on a accès à l'information, ou pas. Parfois, on n'a pas accès à l'information, et pourtant, ça se traite.
On va écouter maintenant un premier témoignage. Cette personne parle de trauma qu'elle a vécu. On l'écoute tout de suite.
Tu dirais que tu as différents traumas ou un trauma ?
Ouais, moi, j'ai l'impression de reconnaître des événements. Ce truc-là dont on parlait avec mon psy, c'était vraiment un événement précis. Et là, je vois... Du coup, en l'occurrence, cette chose est plutôt réglée. On a travaillé dessus longtemps avec ce psy-là, mais... Ouais, moi, j'identifie plutôt ça en moment. Il y a un autre événement plus récent dans ma vie où je me dis... ça, je m'en remets pas très très bien. Ça revient me hanter beaucoup quand j'y repense. Je suis tout de suite extrêmement mal. Ça me fait des peurs déraisonnables à des endroits. Je sens qu'il y a comme un endroit qui est figé, quoi.
Ce dernier événement, tu sais ce que tu vas faire pour essayer de le dépasser ?
Franchement, non. J'en parle, ça, non. non, je sais pas. Le truc qui m'était arrivé avant, j'ai fait quand même vraiment beaucoup, 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 beaucoup de thérapie dessus. Et petit à petit, ça a fait des effets. Et quand on a fait de l'EMDR avec mon psy d'avant, ça a été un peu genre... La chose qui a achevé de faire que ce truc devienne plus tranquille pour moi. Non, là, ce nouvel événement, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Pour l'instant, je fais vivre avec.
Elle consiste en quoi, les séances que tu as faites au sujet de ce trauma ?
Déjà, j'en ai parlé à des thérapeutes différents à différents moments. Donc, des thérapeutes qui n'avaient pas la même approche. Et aussi... pas forcément de manière... j'ai pas fait un plan, quoi. C'est genre, il y a eu le premier moment où, en fait, ce truc est revenu. J'étais là, ok, il faut absolument que j'en parle, ça va pas. Et après, j'ai déménagé, j'ai arrêté de voir sa psy, qui faisait un truc de psycho corporel, je sais pas trop quoi. Bon, après, j'ai vu quelqu'un d'autre et en fait, à un moment, c'est revenu. Et on en a parlé beaucoup. Et après, en fait, cette chose est revenue des années plus tard, à un autre endroit de ma vie, très fort. Donc là, j'ai été voir l'hypnothérapeute et c'était super, ça a trop bien marché. Et après, quelques années après, ce truc est revenu. Et là, du coup, je suis retournée voir le psy. Et cette fois-là, on a fait le MDR. C'était la réponse à la question ou pas ?
Oui, complètement. Et tu dirais que tu as l'impression que cette fois, c'est achevé ou tu penses que ça peut revenir une fois de plus comme auparavant ?
Je sais pas, c'est dur à dire. En même temps, à chaque fois, j'ai eu l'impression d'atteindre des petits paliers différents de comment ça restait après en moi après l'hypnothérapie. C'était trop bien l'hypnothérapeute. C'était vraiment flagrant de voir la différence de qu'est-ce que ça fait. Et le MDR, c'était pareil. Et c'était possible de mesurer cette chose concrètement, par exemple. J'ai pu retourner sur les lieux de l'événement, chose que je n'avais jamais faite depuis 15 ans, plus 20 ans. Et ils pensaient de manière hyper différente. Et en vrai, peut-être que ça peut revenir. J'ai pas trop de certitude, mais en tout cas, ça n'a pas pointé le bout de son nez depuis longtemps. Et quand j'y pense, je me sens OK.
Merci.
Merci à toi.
Ce qu'on entend, c'est qu'il y a eu tout un processus et qu'on dirait qu'il y a des vagues. Ça s'atténue, mais finalement, ça revient.
Ouais, alors ça arrive de temps en temps. C'est un peu comme les pelures d'oignon. C'est étrange hein, comment on est. Et c'est différent pour chacun. Il y a des traumas qui ne reviennent pas. Et puis, il y a des traumas qui sont sans doute engrammés encore dans d'autres choses qui reviennent comme des pelures d'oignon. Ma pensée à moi, que ce sont des traumas qui sont aussi qui sont sans doute familiaux ou transgénérationnels. Par exemple, des blessures d'attachement, des blessures d'humiliation, qui ne sont pas juste les nôtres, mais qui sont aussi liées à un plus vaste réseau neuro-émotionnel et donc du coup qui reviennent comme des pelures d'oignon.
Ouais, ouais. On va écouter un deuxième témoignage.
Est-ce que le trauma, c'est une notion qui a du sens pour toi ? Est-ce que tu sais reconnaître dans ta vie éventuellement des zones traumatiques ?
Oui, évidemment. Après, je pense que c'est le chemin de tout à chacun de voir ce qui nous marque et ce qui nous marque, quoi.
Tu fais comment avec ceux que tu identifies, justement ?
Déjà, les identifier, c'est la moitié du chemin, on va dire.
Et la deuxième moitié du chemin ?
C'est du coup d'apprendre à vivre avec.
Seul ? Est-ce que tu fais ce chemin seul ?
Je pense que les gros traumas, il y a besoin d'être accompagné.
Tu l'as fait par exemple pour toi ?
Je l'ai été, ouais.
Et ça a fonctionné ?
Ouais.
Et est-ce que tu veux bien développer un peu sur ce qui a les méthodes ou les... Est-ce que c'est une question de personne, de méthode, ce qui s'est passé pour toi ?
C'est pour ça qu'il y a différentes psychologies, que ce soit la cognitive ou d'autres méthodes. Il faut aller un peu à tâtons pour savoir ce qui est bon pour soi et par rapport au trauma.
Et est-ce que tu veux bien développer sur toi ce qui a fonctionné ?
Je pense que c'est plus une manière générale... Si c'est un trauma lié aux accidents de la route, ça va être de la psychothérapie pour avoir aller sur ses peurs. Si c'est sur des comportements, ça va plus être la psychocognitive. Je pense que c'est à chacun d'essayer plein de choses pour adapter un suivi pertinent, quoi.
Est-ce que c'est simple pour toi de parler des problématiques que tu as pu vivre dans ta vie, que ce soit avec des amis ou avec des professionnels ?
Pas vraiment. Et du coup, c'est très difficile en fait, d'avoir accès aux soins. Même quand on est dans des situations d'urgence, en fait, il n'y a pas de place dans les centres médico-sociaux. Et puis au niveau de la psychologie, c'est beaucoup de sa poche. Donc en fait, celui qui a des sous, il peut... Il peut facilement avoir un suivi et celui qui n'en a pas, c'est beaucoup plus compliqué.
Est-ce qu'il y a des zones encore pour toi où justement ça reste complètement à l'intérieur de toi, tu en parles à personne?
Ah bah non, parce qu'une fois qu'on a compris comment marche son cerveau, le but c'est de pas laisser gangréner à l'intérieur de nous-mêmes. Bah, c'est un chemin spirituel, hein, tout le monde ne le fait pas. On est la nouvelle génération, mais nos parents avant ils parlaient pas de tout ça. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup évolué là-dedans, mais que c'est pas vraiment disponible pour les gens, quoi.
Je te remercie. Est-ce que tu veux dire un dernier mot?
Eh ben, qu'il faut pas lâcher notre cerveau. Il peut faire plein de choses et se rendre compte de ce qui est pas bien, mais aussi de se rendre compte de ce qui est bien. Et puis chaque jour un petit pas, eh ben c'est pas rien.
Merci beaucoup.
À un moment donné, cette personne dit il y a une problématique, il y a une technique. Est-ce que c'est l'individu qui fait qu'on va chercher une technique, une problématique? Comment on choisit?
Je pense qu'on choisit de plein de manières différentes et que toutes les techniques sont intéressantes, au fait. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Il y en a certains, par exemple, de la thérapie comme la psychanalyse ou de la thérapie longue par la parole va être vraiment très réconfortante quand on a connu des troubles d'attachement. Ça va être essentiel même. Il y a des techniques où on a un trauma clair. Là, le MDR est très simple. Même si le MDR peut aussi vraiment travailler sur des cas, des traumas, ce qu'on appelle des traumas complexes, des traumas de l'enfance. Et c'est souvent des personnes qui ont connu beaucoup de traumas dans l'enfance qui continuent à être traumatisées par la suite, au fait. C'est ça, on n'est pas tous pareils, parce que plus on a connu des traumas d'enfance, on a dû s'en sortir tout seul, toute seule, plus on a dû faire appel qu'à nous, plus ça va être quoi, plus on risque d'être retraumatisé plus tard, au fait. C'est hyper intéressant. Au niveau du trauma, c'est hyper intéressant. Là, elle parle d'hypnose, et puis il y a toutes les nouvelles thérapies comme le trauma releasing exercise, qui est la TRE, quoi. On va avoir arrivé plein de méthodes, plutôt de tout ce qui est anglophone, en lien avec le corps. Comment est-ce qu'on peut laisser aller la charge traumatique à travers le corps sans trop réfléchir autour de l'histoire, sans trop penser autour de l'histoire? En France, on est très lié à si je comprends, je vais guérir.
Oui.
Dans le monde anglo-saxon, c'est bien différent. On voit plutôt, ok, j'ai vécu quelque chose, j'ai du coup de la charge traumatique, comment est-ce que je l'enlève de moi, oui. Même si je ne comprends pas pourquoi et comment, et que je n'ai pas trié à un niveau cognitif. Et ça marche très très bien, c'est souvent beaucoup plus rapide. Donc on va avoir arrivé tout un nouveau champ de pratique en termes de trauma, et c'est génial parce que ça va permettre du coup que le traitement traumatique ne soit pas une thérapie longue. Oui. Même si parfois, quand on a connu beaucoup, beaucoup de traumas, ben oui, ça sera plus long.
Mais en effet, ça peut faire peur de s'engager dans une thérapie où on ne sait pas quand sera la fin. Du coup, les thérapies brèves semblent convaincre beaucoup, beaucoup de gens dernièrement.
Oui. Et après, je pense qu'elles répondent à beaucoup de choses. Elles ne répondent pas à tout, au fait. Le monde est complexe. Il n'y a pas une méthode pour une chose, quoi. Mm-hmm. Et on est tous complexes. On a tous des besoins différents. Mais c'est vrai que moi, dans ma pratique, parce que ça fait 25 ans quand même que je travaille autour du trauma, je vois que la décharge, entre autres avec le corps et tout ce qui est en lien avec les thérapies psychocorporelles, marche très bien, en fait. Quand le cadre est très sécure et quand il y a beaucoup de stabilisation. Quand on peut revenir en sécurité et quand on va lentement, parce que maintenant il y a tout un nouveau courant dans le monde du trauma qui s'appelle la théorie polyvagale et qui nous montre comment être confronté à du trauma comme ça et pas être en sécurité est vraiment mauvais, au fait, pour notre cerveau et pour notre corps.
Ça, donc, c'était le cœur du sujet avec notre invitée Léa Buisson, qui était à la première émission. Elle a été formée sur la théorie polyvagale et donc elle a... Voilà, okay. Elle travaille là-dessus, ouais.
Bah voilà, ouais.
Et on aura bientôt une hypnothérapeute qui s'appelle Pauline Billet pour une prochaine émission.
Génial.
Sur la question de l'accès aux soins, cette personne, justement, parle du fait qu'en fonction de ses moyens, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce que tu sais nous dire un peu quelles sont les possibilités?
Oui, c'est vrai que c'est vraiment une vraie question parce que soit on a de l'argent, on peut aller en individuel, soit on n'en a pas vraiment et on a souvent des longues listes d'attente en CMP. Donc, il y a quelque temps, le gouvernement il a lancé Soutien Mon Psy, qui est une des alternatives qui n'est pas non plus la meilleure parce qu'elle peut amené à déforcer les centres, les CMP, les centres médico-sociaux. Mais au fait, la santé mentale est on l'a vu depuis le Covid, c'est un enjeu majeur au fait, parce qu'il y a de plus en plus de troubles, parce qu'on en parle de plus en plus, parce que tout ce qui se passe au niveau des violences sexuelles sort de plus en plus, donc de plus en plus de monde se rend bien compte qu'il y a des traumas, et je ne parle pas juste des violences sexuelles, il y a aussi les violences structurelles, comme le racisme, le classisme, le validisme, il y a plein de violences dont on commence à parler et dont il faut qu'on ait des personnes qui puissent nous aider à traverser tout ça et à sortir des choses qui ont été si difficiles et qui les prennent en compte. C'est un vrai problème.
On n'a pas de solution, mais non. Voilà. Ok, je te remercie. On va faire une deuxième pause musicale et après, on reviendra et on parlera un peu plus de façon approfondie sur la thérapie individuelle telle que tu la pratiques.
On that wall, he's just going to spend the night with my girl. That's what I'm talking about. That's why I'm gonna blend this child wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall, the wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so dark. Life is strange, and it seems you gotta do it all by yourself to arrange. Sensations never fail. That's why my soul I never sell. The wall between reality and fantasy. Sometimes so small and not so tall. The wall between reality and fantasy. Sometimes so small.
Bon, alors Laetitia, je sais que tu es passionnée par le groupe, mais je voulais quand même poser quelques petites questions sur comment se passe une thérapie en individuel, même si je sais que tu ne prends plus de patients parce que bah, voilà, tu ne peux pas tout faire. Je voudrais comprendre un petit peu comment tu fonctionnes en thérapie individuelle. Et par exemple, quand il y a une première séance, voilà, qu'est-ce qui se passe lors d'une première séance et quel cadre tu mets pour le patient ?
Lors d'une première séance, souvent c'est ce qu'on appelle l'étape de l'anamnèse. Donc on essaye de comprendre pourquoi la personne elle vient, moi je pose souvent la question, qu'est-ce qui active votre cœur d'être là, ici, maintenant, de quoi est-ce que vous auriez besoin. Et puis je pose souvent aussi cette question, et si vous vous disiez que c'est maintenant la fin, qu'il n'y aurait plus besoin de venir me voir, qu'est-ce qui changerait dans votre vie? Qu'est-ce qu'il y aurait comme... Parce que souvent, les personnes viennent pour quelque chose et puis elles veulent voir d'autres changements dans leur vie. Et c'est intéressant de voir aussi c'est quoi les changements qu'elles veulent voir dans leur vie, parce que ça donne aussi des pistes pour ce sur quoi on va travailler, au fait.
Oui, et tu expliques un petit peu ce qui va se passer ?
Oui, évidemment, je prends du temps pour expliquer ce qui va se passer. Et je travaille aussi, moi, la première séance, j'essaye de décortiquer le paysage dans lequel la personne évolue. Donc son paysage à elle, mais aussi son paysage familial, parfois même transgénérationnel, et puis collectif, quoi, dans sa communauté, comment elle est insérée ou pas dans sa communauté. Et aussi, j'essaye d'avoir un peu une carte de ses ressources, surtout pour revoir, parce que j'aime beaucoup partir de l'idée d'un camp de base. Quand on va travailler sur des choses complexes, on doit pouvoir revenir au camp de base, et le camp de base, c'est nos ressources. Si on est là, c'est qu'on a pu traverser ce qui nous est arrivé. Alors, qu'est-ce qui nous a aidé, au fait ? Qu'est-ce qui nous a tenu droite pour continuer à avancer malgré tout ? Donc ça, je prends pas mal de temps aussi autour des ressources.
Est-ce que le patient sait toujours pour la raison pour laquelle il vient ? Et est-ce qu'il repart avec, en ayant travaillé sur ce quoi qu'il est venu au tout départ ?
Pas toujours. Mais tu poses deux questions en une. Ouais. Donc la personne ne sait pas toujours quoi. En tout cas, il y a quelque chose qui l'active et qui l'active assez suffisamment que pour prendre rendez-vous, pour oser, pour payer, quoi, pour tout ça. Donc il y a quelque chose qui l'active. Donc parfois, c'est pas du tout clair, mais il y a quand même quelque chose qui dit ok, je fais ce pas-là. Ou c'est parce que quelqu'un dans son environnement a dit bon, maintenant, j'en peux plus, il faut que tu ailles voir quelqu'un. Donc, mais il y a quelque chose qui fait qu'elle est là. Après, elle repart. Parce qu'on arrive avec une demande et bien souvent, il y en a d'autres derrière. Donc, elle ne repart pas avec... Elle peut, mais pas toujours.
Oui. Ça marche toujours aussi bien quand on vient parce que quelqu'un d'autre l'a suggéré ?
Non. Oui et non, ça va dépendre si on est prêt à vraiment se mettre au travail, si on ne fait pas juste plaisir, si on est prêt à faire le chemin, en fait. Parce que c'est vraiment un chemin de réparation et de cœur, au fait. C'est vraiment comment est-ce qu'on va réouvrir son cœur et ramener de la tendresse à l'intérieur de soi et à l'extérieur. Parce que pour moi, l'antidote au trauma, c'est la tendresse. Donc, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir s'ouvrir à de la tendresse à l'intérieur de nous et aller restaurer toutes ces parties de nous qui ont besoin de tendresse parce qu'elles ont été seules. Et donc, ouais.
C'est le lien au thérapeute qui fait une partie du travail ?
Oui, certainement. Oui, oui les études le montrent. Hein. C'est le lien, c'est ce qu'on appelle le transfert dans l'ancien monde. C'est ce qu'on appelait le transfert. Mais oui, c'est comment est-ce qu'on se sent, en miroir. Pas en miroir, mais c'est l'alliance thérapeutique qui fait qu'on ose y aller. Parce que ce n'est pas toujours facile de traverser ces territoires-là. Donc, si on n'a pas un allié avec nous, on va pas y aller. Mmh. Donc oui, le lien fait beaucoup, beaucoup.
Quand la personne vient, et si elle vient avec vraiment beaucoup, beaucoup de choses, ça part dans tous les sens, comment tu fais pour trouver ton chemin ?
On a une technique qu'on appelle le contenant. Donc, je mets beaucoup dans le contenant, dans la salle d'attente des problèmes. Pour elle.
Ça veut dire quoi ?
Le contenant, c'est une technique qu'on utilise en hypnose où on met de côté les choses qu'on ne peut pas travailler au moment même pour qu'elles puissent venir se travailler à un moment qui est plus opportun. Et moi, je fais souvent mon chemin dans tout ce que la personne me raconte, là où je sens qu'il y a le plus besoin, et je lui demande toujours, tiens, ce sur quoi est-ce qu'elle veut travailler ? Donc, c'est la personne, en fait. Dans une thérapie, l'accompagnant, elle est experte de sa pratique, mais la personne, elle est experte de sa vie, c'est elle qui sait. C'est elle qui connaît sa vie, c'est elle qui sait les changements qu'il a besoin, c'est elle qui va faire les changements dans sa vie. C'est un peu comme une voiture. Nous, on est experte de la voiture, on amène une voiture en bon état, mais c'est la personne qui décide là où elle va et quel chemin elle va le prendre pour y aller. Oui. Moi, je peux juste assurer que la voiture soit en bon état.
Quel est le bon rythme pour le patient ?
Eh ben ça va dépendre de tout le monde. Hein. De quoi ça va être, je sais pas. J'imagine que la plupart, ils aiment bien toutes les deux semaines ou tous les mois.
Et tu penses que ça que ce soit un peu rapproché, ça permet quelque chose?
Oui, certainement. Après, en EMDR, on ne fait pas plus d'une fois par semaine parce que c'est très intense en termes de retraitement. Mais oui, je pense que ça va dépendre des phases de vie.
Il faut aussi laisser du temps.
En fait, il y a beaucoup qui se passe dans le réel. Il y a beaucoup qui se passe dans le réel et dans notre vie avec les gens autour de nous et tout. Ouais.
Et comment on décide que la thérapie, c'est fini, c'est bon?
Eh bien, parce que on n'a plus vraiment envie d'y aller, on n'a plus envie de passer son énergie là-dedans. Donc ça, c'est un des bons signes.
Ça se fait tout seul.
Ouais, ça se fait tout seul. Et puis parfois, on a envie que ça s'arrête et que c'est pas encore... Ouais, parfois, c'est pas fini, mais c'est fini pour la personne à ce moment-là parce qu'elle a d'autres choses à gérer dans sa vie.
Oui.
Ouais.
On a parlé de beaucoup de choses, on aurait encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais il va falloir s'arrêter parce qu'on arrive au bout de l'émission. La dernière question que je voudrais te poser, Laetitia, qu'est-ce que tu voudrais mettre en avant? Quels sont les derniers mots que tu voudrais poser pour cette émission?
Que c'est vraiment courageux d'aller faire un travail vers soi-même et que ça vaut la peine. Parce qu'après, on a tellement plus de liberté à l'intérieur de soi, c'est tellement plus fluide. Et que parfois, on a peur, mais que ça vaut vraiment la peine. C'est un beau travail, quoi. C'est le plus beau des voyages, je trouve, celui vers soi-même. Et vraiment, que se sentir relié, en sécurité, c'est ce qui permet de tout traverser.
Ok, je te remercie. On mettra sur le site de Radio Saint-Ferréol les liens pour aller voir ton site internet. Merci beaucoup d'avoir été présente pour cette deuxième émission. Merci à Radio Saint-Ferréol pour nous avoir accueillis dans son studio. Merci à Yann qui a fait la technique aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui et à bientôt pour la suite.
À bientôt.
Mr. Kirk, Dexter's in school.
I'm afraid he's not, Miss Fishmore. Dexter's truancy problem is way out of hand. The Baltimore County School Board have decided to expel Dexter from the entire public school system.
Oh, Mr. Kirk, I'm as upset as you to learn Dexter's truancy. But surely expulsion is not the answer.
I'm afraid expulsion is the only answer. It is the opinion of the entire staff that Dexter is criminally insane. Psychosomatic.
That boy needs therapy.
Purely psychosomatic.
That boy needs therapy.
Lying down on the couch.
What does that mean?
You're a nut. You're crazy in the coconut.
What does that mean?
That boy needs therapy.
I'm gonna kill you.
That boy needs therapy.
Granny Gazoo, let's have a chew. How about I count three?
That boy needs therapy.
He was white as a sheep.
And he also made false teeth.
Avalanche is above. Business continues below.
Did I ever tell you the story about
cowboys
and big midgets
and Indians
and frontier psychiatry?
My felt strangely hypnotized.
I was in another world. The world of 20,000 girls
and milk and rectangles.
Do an optometrist.
A man with a golden eyeball.
And tighten your buttocks.
Pour juice on your chin.
I promised my girlfriend I'd
play the violin.
Frontier Psychiatry. Frontier Psychiatry. Frontier Psychiatry.
That boy needs therapy.
Psychosomatic.
That boy needs therapy.
Purely psychosomatic.
That boy needs therapy.
I'm lying down on the couch.
What does that mean?
You're a nut. You're crazy in the coconut.
What does that mean?
That boy needs therapy.
I'm gonna kill you.
That boy needs therapy.
Granny Gazoo, let's have a chew. How about I count three?
That boy needs therapy.
He was white as a sheep.
And he also made false teeth.
Yeah.
anything that talks, other than a person?
A bird?
Yeah. Sometimes a parrot talks.